Trois semaines après le réveillon de la Saint-Sylvestre, la communauté asiatique célébrait son nouvel an. Samedi soir, l'amicale vietnamienne a fêté l'événement dans son foyer de Tina avec plus de 400 convives et 10 000 pétards. Le couple franco-allemand doit être la locomotive de l'Europe. Emmanuel Macron reçoit à Paris le chancelier Olaf Scholz à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Le chef de l'État n'exclut pas d'envoyer des chars Leclerc en Ukraine. Panique à bord au Parti socialiste. Olivier Faure se déclare vainqueur et son opposant dénonce des fraudes. Le porte-parole du parti dénonce lui aussi des irrégularités. La réforme des retraites doit être soumise à référendum. C'est la proposition du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. À la une du sport du football avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France. 6 matchs à suivre ce matin. En ce moment même, les tenants du titre, les Nantais d'Antoine Comboiré, sont sur le terrain de temps. Demain, le Paris Saint-Germain se déplacera sur le terrain du club du Pays de Cassel. Un petit poussé de la compétition qui évolue en Régional 3. Votre météo, ciel chargé sur le nord, temps nuageux avec des averses sur les loyautés, mais pas de vigilance particulière. Selon Météo France, il fera encore très chaud. Température comprise entre 30 et 33 degrés.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Gilles.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec à ne pas manquer, dès la fin de ce journal, le retour de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noire, qui revient sur le départ annoncé la semaine dernière du haut-commissaire Patrice Faure. Sans plus attendre, voyons avec vous, Michael Juneski, de quoi sera faite la semaine qui s'ouvre aujourd'hui en Calédonie.
Et tout d'abord, un rendez-vous attendu demain après-midi, la direction de la FOL, la Fédération des œuvres laïques, ainsi que les représentants de la province sud et de l'État présenteront le projet de nouveau centre socio-culturel à Nouméa. Un rendez-vous politique, le comité directeur de rentrée de l'Union calédonienne. Il doit se tenir samedi prochain à Canala. À Nessadiou, une cérémonie se tiendra à 9h ce matin avec les forces armées de Nouvelle-Calédonie au cimetière néo-zélandais de Bouraï, en présence des chefs d'état-major des armées australiennes et néo-zélandaises. Et puis une prise de fonction ce jeudi, celle du nouveau consul de Nouvelle-Zélande en Calédonie, Lauren Anderson-Lister, à 15h à Nouméa, au consulat néo-zélandais.
Au chapitre institutionnel, les élus de l'Assemblée de la province Nord se réuniront vendredi matin à partir de 9h à Conéa, avec à l'ordre du jour notamment l'examen du budget primitif 2023 de la province Nord.
Vendredi toujours, le membre du gouvernement chargé de la modernisation de l'action publique et de la transition numérique, Vaimoa Mouliava, sera à 9h30 à la station N pour évoquer la transformation de la nouvelle plateforme des marchés publics. Vendredi soir, le conseil municipal de Dimbéa est convoqué à 17h30, notamment pour son débat d'orientation budgétaire. Il y aura également demain une séance du CESE, le conseil économique, social et environnemental, dès 9h à la mairie de Nouméa.
Et puis une tournée d'adieu de la Glorieuse aux îles, le dernier patrouilleur de la classe P400 qui sera prochainement retiré du service après 38 ans au sein des forces armées, effectuera une toute dernière tournée à partir de mercredi avec d'abord deux escales à l'île des Pins mercredi et à Marais samedi.
Ce lundi, c'est le début de la campagne de candidature pour les jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent effectuer un service volontaire océanien au Vanuatu ou en Nouvelle-Zélande. Jeunesse toujours avec les phases finales de la Coupe Yewene qui seront lancées aujourd'hui à Lifou. Cérémonie d'ouverture à 15h à la province des îles. En épisme, la fédération calédonienne doit se retrouver samedi prochain à partir de 8h au centre socio-culturel de la Foi pour son assemblée générale ordinaire. Et puis, des rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Le directeur du CHS, Albert Bousquet, quitte ses fonctions après plus de 30 ans à ce poste. À cette occasion, Philippe Palombo fera le bilan de son mandat et évoquera l'actualité du centre hospitalier spécialisé. Il sera notre invité ce matin sur RRB à 7h30. Et puis, dans le MAC des sports, nous parlerons gymnastique. Le saviez-vous, le club de gymnastique néo-calédonienne est l'une des plus vieilles associations sportives du territoire. Aujourd'hui, le club est sur une nouvelle dynamique. Nous en parlerons notamment avec son président Christophe Thomas, qui sera notre invité ce lundi midi dans les studios d'RRB.
Trois semaines après le réveillon de la Saint-Sylvestre, la communauté asiatique célébrait son nouvel an. C'était samedi soir. L'amicale vietnamienne a fêté l'événement dans son foyer de Tina avec plus de 400 convives. Familles et amis ont festoyé et dansé, sans oublier d'allumer les 10 000 pétards à minuit pour chasser les mauvais esprits et parfaitement entrer dans la nouvelle année. Nos compatriotes d'origine vietnamienne et chinoise sont entrés respectivement dans l'année du chat et du lapin d'eau, une année qui devrait être empreinte de douceur, de sérénité et propice à dresser des plans pour l'avenir. Le week-end en Calédonie a également été marqué par cet hommage rendu samedi à l'équipage du DC-4 qui s'est crashé à Bangou le 21 janvier 1982. Il y a 41 ans, cet avion d'escadrille 9S de la base aéronautique navale de la Tontouta s'écrasait peu après 21 heures sur le mont Kokatea avec à son bord 7 membres d'équipage. Un drame survenu au cours d'un vol d'entraînement de nuit alors que ces marins du ciel effectuaient une série de décollages et atterrissages. Un hommage leur a été rendu en la chapelle de Bangou avec une messe célébrée par Mgr Calvé. Un drame qui a marqué la tribu de Bangou, comme en témoignait samedi le petit chef Gabriel Chérica. Il avait 22 ans au moment des faits.
À chaque fois qu'on commémore l'anniversaire de ces marins, ceux qui sont de ma génération, on ressent, c'est fort. Des images qu'on ne peut pas oublier. C'est dur pour nous, mais nous, on va partir un jour avec, on va mourir avec ces images, parce que ce sont des images qui sont inoubliables. Quand on trouve la moitié d'un corps, on trouve une tête là, des pieds là, c'est horrible, quoi. C'est ancré en nous, et les gens de la tribu aussi, ben, tout le monde se rappelle de ce crash.
Ce drame est venu à vous, mais il fait partie intégralement de votre histoire.
Depuis jusqu'à aujourd'hui, pour nous, ces gens-là, ils sont morts chez nous. Peut-être que le reste de leur corps a été rapatrié en France, mais leur esprit, il est resté ici. Ça fait que les anciens ont dit, on va faire une stèle pour toujours commémorer tous les ans, pour ne pas oublier ces gens-là. Parce que leur esprit, il est resté dans nos vallées, dans nos montagnes.
Le petit chef de la tribu de Bangou, Gabriel Chérica, interrogé samedi matin par Frédéric Joncheret, précisons que l'an dernier, le 40e anniversaire de cette disparition de l'équipage du DC-4 n'avait pu être commémoré en raison de la crise sanitaire. Un avion de l'escadrille Neufès, qui était d'ailleurs historique, il avait transporté le général de Gaulle à deux reprises en Calédonie en 1956 et 1966.
À Radio Rythme Bleu, 6h38.
En Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins a été officiellement désigné par son parti pour prendre la succession de Jacinda Ardern, la première ministre démissionnaire. Chris Hipkins qui va donc devenir le 41e chef du gouvernement kiwi après avoir été désigné par le parti travailliste. Sa première prise de parole, c'était devant les membres de son parti. Il a affiché sa détermination et sa confiance en ses capacités à vouloir faire avancer le pays.
J'ai été touché par le soutien manifesté par mes collègues, mais aussi très enthousiaste par l'attention et l'engagement qu'ils m'ont témoigné pour que cette transition soit à la fois rapide et harmonieuse. C'est le plus grand privilège, mais aussi la plus grande responsabilité de ma vie.
Et pour rappel, Jacinda Ardern a annoncé sa démission jeudi dernier à la surprise générale. Chris Hipkins était ministre de l'Intérieur depuis juin 2022. Il a notamment géré la crise Covid en Nouvelle-Zélande.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision de Jacinda Ardern de démissionner de ses fonctions de première ministre de Nouvelle-Zélande en invoquant son épuisement personnel et le besoin de retrouver sa famille? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. 6h39 sur Radio Rythme Bleu. Dans un instant, l'actualité en métropole.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise de Nouvelle-Calédonie, Malakoff Humanis vous informe. À compter du 4 janvier 2023, le régime AGIRC-ARCO ouvre la plateforme déclarative DéclareZen. Vous pouvez effectuer vos déclarations de salaire 2022 par la saisie de formulaire ou par dépôt de fichier. La date limite de déclaration est fixée au 31 janvier 2023. Pensez-y, sans votre déclaration, les droits de vos salariés ne pourront pas être calculés. Pour plus d'informations, contactez-nous au 27 99 12.
Chez Simac Quincaillerie, à partir du 1er janvier, la perceuse visseuse à percussion Makita 18 volts Lyon plus deux batteries, un chargeur et un coffret sont à 33 900 francs, dans la limite des stocks disponibles.
Plus d'infos sur Facebook et simac.nc. À Nouméa, carrefour du 4e kilomètre et à Coné, lotissement Cataviti, Simac Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Vous avez choisi la destination de vos rêves ou voyagez ? Parfait ! Mais avez-vous pensé à un financement adapté ? Faites confiance à Socalfi pour vous accompagner au bout de vos projets. Contactez-nous dès aujourd'hui au 448 448 ou sur notre site socalfi.com.
Socalfi, 20 ans de projets réalisés. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
RRB pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Gilles Ménage.
Avec à la une de l'actualité en métropole, ces retrouvailles à Paris du couple franco-allemand à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz, discours à la Sorbonne, conseil des ministres conjoints et une conférence de presse qui s'est terminée il y a un peu plus d'une demi-heure avec les grandes lignes de la coopération à venir entre la France et l'Allemagne. Jacques Serret pour Europe 1.
Les deux dirigeants étaient attendus sur un point en particulier. Kiev presse Berlin d'envoyer des chars Léopard 2 et exhorte Paris à acheminer des chars Leclerc. Réponse ce soir du président français.
J'ai demandé donc au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement et au regard de trois critères. D'une part, comme on l'a toujours fait depuis le début, que ça ne soit pas escalatoire. La deuxième, c'est que ça puisse apporter un soutien réel et efficace à nos amis ukrainiens. Le troisième critère, c'est de ne pas affaiblir nos capacités propres de défense, en particulier de nos structures critiques.
Nous aurons un travail à conduire dans les jours, dans les semaines qui viennent, explique Emmanuel Macron, alors que Olaf Scholz insiste sur le fait que la guerre risque de durer longtemps en Ukraine. Notre objectif est le même, c'est bien celui d'une Europe plus souveraine, plus unie, plus solidaire, insiste le locataire de l'Elysée. Alors face au plan de protectionnisme américain, l'Inflation Reduction Act, les deux dirigeants disent avoir défini une ligne commune, sans plus de précision. Enfin, une annonce, celle de la création d'un premier billet de train franco-allemand pour les jeunes qui devrait voir le jour en cette année 2023.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Autre point clé de cette rencontre, les discussions entre le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qui parle d'ailleurs parfaitement l'allemand, et son homologue d'Outre-Rhin. Les deux hommes doivent notamment évoquer la riposte aux mesures protectionnistes américaines. Margot Fodéré.
Ce sont deux grands sujets de préoccupation pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la lutte contre l'inflation et le verdissement de l'industrie, deux secteurs où les marges de manœuvre des États membres de l'Union sont limitées par les règles européennes. Les aides pour un projet d'industrie verte ne représentent donc jamais plus de 30% des investissements nécessaires à la construction de l'usine en France, contre 80% aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Alors pour répondre à ce déséquilibre, en décembre dernier, la France et l'Allemagne ont proposé un partenariat vert entre l'Union européenne et les États-Unis, avec des normes conjointes et des régimes de subventions. Depuis, rien n'a avancé. La France réfléchit avec ses partenaires allemands à une approche convergente, confie seulement le gouvernement. Tout cela devrait être discuté au Conseil européen courant février. Bruno Le Maire et son homologue allemand doivent aussi se rendre aux États-Unis avec deux commissaires européens dans les prochaines semaines.
Margot Fodéré du service économie d'Europe.
À Radio Rythme Bleu, 6h43.
L'actualité politique en métropole marquée par cette véritable pagaille au Parti Socialiste. Après le scrutin censé désigner le premier secrétaire du parti, Olivier Faure continue de se déclarer vainqueur alors que son opposant Nicolas Meyer-Rossignol conteste. Question, la commission de recollement a-t-elle bien fait son travail? Selon le sénateur socialiste et porte-parole du parti Rachid Temal, la commission n'a pas pu aller au bout de sa mission.
Il y avait une méthode relativement simple, nous prenons les procès-verbaux fédération par fédération, comme dans une élection, on va dire, classique. Et puis, nous avons fait la moitié du travail, et à la fin de cette moitié du travail, la direction a proposé d'arrêter et de passer au vote, ce que nous avons refusé. Nous le devons aux militants, nous le devons au statut du Parti Socialiste. Et donc, moi, au moment où je vous parle, c'est du jamais vu, d'ailleurs, ce qui s'est passé. Je ne sais pas vous dire qui est premier secrétaire, puisque je considère, et je crois que c'est assez normal, que le travail n'a pas été fait à son terme, n'a pas été mené à son terme. C'est comme si le Conseil constitutionnel faisait la moitié des départements et puis il s'arrêtait et disait « bon voilà, je proclame un tel ».
Les équipes d'Olivier Faure auraient donc donné l'ordre d'arrêter le recueillement des résultats. Et ce matin sur Europe 1, Nicolas Meyer-Rossignol dénonce des pratiques frauduleuses.
Je dénonce des pratiques frauduleuses qui existent dans le Parti Socialiste depuis trop longtemps. Pas partout, pas systématiquement, mais dans un certain nombre de fédérations. Cette fois-ci, ça s'est passé notamment à Liévin, dans le Pas-de-Calais, ça se passe dans les Bouches-du-Rhône, ça se passe dans d'autres sections encore, une fois pas partout et heureusement, mais dans des endroits où ces pratiques sont avérées, sont enquistées et ne sont pas acceptables.
Nicolas Meyer-Rossignol ce matin sur Europe 1, quant à l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, il a jugé sur France Info la situation pathétique. L'ancien Premier ministre de François Hollande affirme vivre cet épisode avec beaucoup de tristesse. La suite de la contestation sur la réforme des retraites après les manifestations de jeunes et la nouvelle journée de mobilisation attendue le 31 janvier. Le texte sera présenté demain soir pour nous en Conseil des ministres avant un débat parlementaire qui s'annonce déjà compliqué. De son côté, le Rassemblement national souhaiterait que ce texte soit soumis au peuple. Jordan Bardella en a fait la proposition dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, dont il était l'invité.
Je pense que nous pourrions aller, dans les prochains jours, vers des temps difficiles et incertains, avec des mobilisations populaires dans la rue, des risques de blocage. Et puis, il y a cette majorité de refus qui se constitue dans le pays, autour de ces 68% de Français, d'après le sondage IFOP, qui sont opposés à la réforme des retraites. Moi, je dis, quand on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum. C'est un moyen de mettre ce texte au débat, d'en sortir par le haut. L'un des moyens d'éviter des blocages et surtout d'entendre aussi l'avis des oppositions et l'avis du peuple français, c'est de soumettre ce texte à référendum.
Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui était donc l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, émission qui sera diffusée ce soir sur notre antenne juste après notre journal de 17h45. La Chine est donc entrée dans l'année du lapin d'eau, l'occasion de grandes célébrations à travers tout le pays et de retrouvailles familiales, surtout les premières depuis 3 ans. La levée des mesures sanitaires a permis à la Chine de célébrer le nouvel an lunaire. À Pékin, le reportage de Sébastien Lebelzik.
Bonne année, la Chine entre aujourd'hui dans l'année du lapin, à coups de grands spectacles, de concerts, de feux d'artifice et de danse du dragon. La fête a duré toute la nuit et va se poursuivre pendant 2 semaines pour la plus grande joie de nombreux Chinois, comme cette dame croisée sur un marché installé au pied d'un temple.
C'est magnifique, je ressens plein de vibrations. Je suis allée à tous les stands, j'ai pris des photos. On ressent l'atmosphère de la fête du printemps, cela me fait du bien.
Car c'est la première fois depuis 3 ans que les fêtes se déroulent sans aucune restriction sanitaire liée au Covid. Cette autre habitante se souvient de ces 3 années difficiles.
Nous avons été enfermés, c'était vraiment dur. Mais maintenant, puisque tout le monde a déjà eu le Covid, nous pouvons avoir un nouvel an chinois normal. Cela nous rend très heureux.
Normal, ou presque, si 80% de la population a déjà été infectée par le Covid, les autorités redoutent que ces grandes fêtes du nouvel an et les 2 milliards de trajets prévus ce mois-ci à travers le pays ne provoquent une nouvelle vague meurtrière, notamment dans les campagnes. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Il est 6h48 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause de publicité juste avant de voir toute l'actualité sportive.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. BSE, c'est Bruce Service Express. Une équipe sympathique et efficace qui transporte vos plis et vos colis, même volumineux. Livraison sur le Nord en toute sécurité et rapidité. BSE, c'est du sérieux. Contactez-nous au 24 90 45. EDS a conçu la Listock, seul système de stockage d'énergie qui s'adapte à votre installation solaire, quelle que soit la marque, sans rien changer. EDS à l'écoute de vos besoins. 10 rue Arago à Ducos, contactez-nous au 28 45 28.
Voici Julien.
Bonjour.
Julien est maçon.
Et j'ai besoin de matériel de pro. Hein.
Mais Julien n'a pas un gros budget.
Ah, ça c'est clair.
Alors pour Julien et pour tous les autres, jusqu'au 19 février, la bétonnière électrique 130 litres 550 watts est à seulement 36 900 francs.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
C'est la suite de votre journal, on retrouve Gilles Ménage.
Avec à la une du sport ce matin, du football, Michael Gineski et la suite des 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, et c'est passé de justesse pour les tenants du titre. À l'instant, les Nantais d'Antoine Comboiré se sont qualifiés pour les 8e de finale aux tirs au but contre la modeste équipe de Caen en National 3. 0-0 à la fin du temps réglementaire. 4 tirs réussis à 2 en faveur de Nantes, grâce notamment à une énorme séance du gardien des Canaries dans cette épreuve fatigante. Des tirs au but. Pour les clubs de Ligue 1, toujours, ça s'est mieux passé pour Auxerre, qui a sorti Niort sur le score de 4-0. Succès encore de Lille face à Pau, 2-0. Et puis d'autres séances de tirs au but. Aujourd'hui, pour des clubs qui rêvent d'une belle aventure en Coupe de France, Annecy qui a sorti Belfort et Vierzon qui a éliminé le Puy-en-Velay. En ce moment, c'est un choc qui va bientôt commencer entre 2 équipes de Ligue 1. Brest qui reçoit le RC Lens.
Et demain, le dernier match opposera le Paris Saint-Germain à la petite équipe du pays de Cassel. C'est un regroupement de 3 petits villages qui comptent à peine au total 2000 habitants. Sur place, évidemment, c'est l'euphorie, comme en témoigne ce reportage de Lionel Gougelot pour Europe 1.
Toute la semaine à l'entraînement, les joueurs de Cassel ont été littéralement assaillis par les chasseurs d'autographes.
Ah oui, complètement. Là, le petit, les fans, puis les grandes aussi, elles sont complètement fans. Là, on court après pour avoir les autographes. Le problème, c'est qu'on ne sait plus qui on a fait signer.
C'est une véritable fièvre qui s'est emparée des supporters de ce petit club de 6e division.
C'est historique. On ne pensait pas avoir un tel engouement comme ça. Et puis bon, le PSG contre Cassel, c'est génial. En tout cas, lundi, on y sera, nous.
Pour ce choc des extrêmes, le stade Bollaert de Lens sera plein. Le vice-président de Cassel, Alain Bogart, sur un petit nuage.
C'est que du bonheur, c'est du rêve, quoi. Et en plus, pour tous ces gamins qui viennent près de moi me féliciter, de me donner la main, ils ont dit merci, merci pour ce que vous faites. Et puis alors, ils sont tous invités. Tous les gamins, ils sont invités du club. On voit tous là, quoi.
Des gamins, des étoiles plein les yeux.
C'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on va voir ça. Donc je pense que le moment, il faudra le vivre au maximum. Et j'espère que peut-être Cassel, ils vont essayer de développer leur jeu. Ils vont pas trop avoir la pression de jouer contre le PSG et à l'épée de Cassel.
Car quel que soit le résultat, ce match restera, quoi qu'il arrive, dans toutes les mémoires. Ouais, à Cassel, Lionel Gougelot, Europe 1.
C'est la magie de la Coupe de France. Coup d'envoi de ce duel des extrêmes, donc Pays de Cassel, Paris Saint-Germain à 6h45 demain matin. On passe au handball, Mickaël, avec l'équipe de France qui joue son dernier match de groupe du Mondial.
Les Français de Luka Karabatic restent sur un sans faute dans la compétition juste avant le début de la phase des matchs couperets. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils feront face donc dans quelques minutes à l'Espagne avec en jeu la première place de leur groupe, le sélectionneur Guillaume Gilles.
Avant ces quarts de finale qui sont le moment décisif de la compétition, juste un tout petit France-Espagne à jouer, qui est jamais neutre, hein, mais un France-Espagne est toujours important, et jamais neutre, est toujours fort de sens, et nous servira aussi à préparer le quart de finale.
Et pour le moment, l'équipe de France est à égalité de points avec l'Espagne. Coup d'envoi du match à 7h.
Sur les terrains de rugby, fin des phases de poule de la Champions Cup.
Et dans la poule B, Montpellier s'en est sorti au bout du suspense face au London Irish. 21 partout, score final, grâce à une belle remontée du MHR dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Montpellier continue donc l'aventure en Coupe d'Europe des clubs en 8e de finale. Le coach de Montpellier, Philippe Saint-André.
Je retiens quand même qu'on est encore qualifié en phase finale de la Champions Cup, deux fois d'affilée. Je crois que c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du club de Montpellier. Donc même sans être exceptionnel, on est encore là. On manquait d'efficacité. Alors après voilà, on est qualifié, on n'a pas perdu.
Et les Toulousains de Rodrigue Netti, de leur côté, ont terminé deuxième de leur poule derrière le Stade Rochelet après une dernière victoire sur le Munster 20-16, score final. Le Stade Toulousain qui a terminé sur 4 victoires consécutives dans cette phase de poule de la Champions Cup.
Du rugby à 7 avec la fin du tournoi d'Hamilton en Nouvelle-Zélande.
Et l'équipe de France masculine qui a terminé hier au pied du podium. Les Bleus du Calédonien Nissi Huillard, battus en demi-finale par la Nouvelle-Zélande, 38-0, ont terminé sur une nouvelle défaite dans la petite finale contre les États-Unis, 15-14. Ils avaient tout de même battu en quart de finale l'Afrique du Sud sur le score serré de 22-17. Les tricolores, on le rappelle, s'étaient préparés une semaine en Calédonie avant de rallier la Nouvelle-Zélande. Ils mettront le cap cette semaine sur l'Australie et l'étape mondiale à Sydney. Et puis, l'équipe de France féminine de Yolaine Yengo était également engagée dans ce tournoi néo-zélandais. Elle a été battue en quart de finale par les Irlandaises, 24-7, et s'est encore inclinée dans le match pour la 5e place face au Japon 19-12, mais les Françaises ont terminé à la 7e place après un dernier succès face aux Fidjiennes 34-5.
On passe au tennis avec les 8e de finale de l'Open d'Australie.
Et Caroline Garcia qui affrontera aujourd'hui la Polonaise Magda Linet. La Française numéro 4 mondiale a toutes ses chances sur les courts de Melbourne. Elle peut nourrir de réels espoirs de remporter cette année, pourquoi pas, son premier tournoi du Grand Chelem en carrière. On rappelle qu'elle a gagné l'année dernière les Masters de fin de saison, match à venir aux environs de 12h30, toujours chez les dames. La numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Świątek, a été éliminée hier par la Lettonne Elena Rybakina. Dans le tableau messieurs, on signalera que Stefanos Tsitsipas, le grec, a dominé l'italien Yannick Sinner en 5-7. Ce soir, Novak Djokovic affrontera l'Australien Alex de Minaur.
En Australie, toujours du cyclisme, Jay Vine a remporté hier à Adélaïde le Tour Down Under 2023. L'Australien de 27 ans, ancien pratiquant de VTT, s'est imposé dès sa première participation. Il l'emporte au général avec 11 secondes d'avance sur le Britannique Simon Yates, qui s'est adjugé la 5e et dernière étape devant Vine. Le podium de cette édition est complété par l'Espagnol Pello Bilbao, qui termine à 27 secondes du maillot ocre du vainqueur. Quant au premier français, il termine 10e du général. Il s'agit de Brian Coquart qui avait remporté samedi la 4e étape. Les sports mécaniques, Mickaël, avec du rallye, Sébastien Ogier gagne toujours sur le championnat du monde WRC.
Il est en pré-retraite à 39 ans, c'est-à-dire qu'il ne dispute plus que quelques étapes dans le calendrier. Et pourtant, le Français a remporté haut la main la première épreuve de la saison. Ogier qui gagne son 9e rallye à Monte Carlo. C'est donc un record sur cette épreuve. Le pilote Toyota a devancé le champion du monde en titre, le Finlandais Kalle Rovanperä.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Le sport côté calédonien, c'est du football avec la sélection des moins de 17 ans qui peut rêver de Coupe du Monde, Mickaël.
Et ouais, nos représentants ont battu samedi les Samoa en quart de finale du tournoi OFC sur le score de 4-0 à Fidji. Les Calédoniens sont donc à un match de la finale, c'est-à-dire à une victoire de décrocher un billet pour le Pérou et donc le mondial des moins de 17 ans. Mais ils devront croiser le fer avec les grands rivaux de la zone pacifique, les cousins tahitiens. Ce sera un duel équilibré et très disputé, comme toujours, face au rival, l'autre grande sélection francophone du football régional, le sélectionneur calédonien Leonardo Lopez.
On va se concentrer, se préparer sur ce match de mercredi contre nos amis tahitiens, essayer de travailler sur les points forts de cette équipe de Tahiti, pour essayer de tout faire pour décrocher ce qu'on est venu chercher ici au Fidji, c'est-à-dire une qualification pour la Coupe du Monde au Pérou. Encore une fois, on a la chance d'avoir un groupe de 22 joueurs qui est très uni et très solidaire et qui ont une grande foi en eux, ce qui fait notre grosse force sur le terrain, et que la bande sera prête à mourir sur le terrain pour le copain et pour essayer de décrocher cette qualification qui serait une sacrée récompense pour cette génération.
La demi-finale Calédonie-Tahiti à venir mercredi prochain. Les deux finalistes du tournoi OFC seront donc qualifiés pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Pour rappel, la génération des Calédoniens de 2017 avait déjà réussi l'exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde de sa catégorie d'âge. C'était en Inde.
Merci Mickaël Juneski. 6h57 sur Radio Rythme Bleu. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on vous écoute pour les détails, Thierry.
Oui, Gilles, pas de vigilance particulière. Donc pour ce lundi 23 janvier, ce matin, le ciel sera chargé sur le nord, l'est et l'île des Pins, ainsi qu'au Louilloté, avec des averses parfois modérées, mais plus rares sur le nord-est ailleurs. Le ciel sera généralement bien ensoleillé. Le vent d'ouest à nord-ouest, compris entre 5 et 10 nœuds, atteindra les 15 nœuds sur l'extrême sud. Il sera plus faible sur le sud-ouest au réveil. Cet après-midi, nuages et averses se maintiendront sur les Louillotés. Sur la Grande Terre, des nuages bourgeonneront sur le relief et des averses localement fortes se déclencheront. Puis, les Andes se décalant vers les littoraux du sud-ouest et du nord-est sur le reste du territoire, le soleil dominera. Le vent se maintiendra d'ouest à nord-ouest entre 5 et 10 nœuds jusqu'à 10 à 15 nœuds sur l'extrême sud. On termine par les températures maximales. Elles restent élevées entre 30 et 32 degrés et localement 33 degrés sur ton tout à Gilles.
Merci Thierry.